Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la conversion de Saul de Tarse. De toutes les conversions racontées dans le livre des Actes, aucune n'est plus remarquable que celle d'un certain Saul de Tarse. Cette conversion, en effet, est racontée trois fois dans le livre, au chapitre 9, chapitre 22 et encore au chapitre 26. Elle est remarquable par le grand changement de direction dans la vie de cet homme qui était, avant sa conversion, un ennemi acharné du christianisme. Elle est remarquable par l'intervention particulière du Seigneur en conduisant Saul vers la conversion. Et elle est remarquable par l'effet produit par ce converti sur la suite de l'histoire chrétienne. Cette conversion n'est pas remarquable par les conditions remplies pour le salut. Comme nous le verrons, Saul de Tarse, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de l'apôtre Paul, s'est converti par les mêmes étapes que tous les autres convertis que nous avons considérés dans le livre des Actes. Écoutons le récit en Actes 9, versets 1 à 9. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Pour la suite du récit, nous allons lire les propos de Paul lui-même en Actes 22, versets 12 à 16. Or, un nommé Ananias, un pieux selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue, et je le regardai. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé. Et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Cet homme, Saul de Tarse, était, selon ses propres mots, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. 1 Timothée 1, verset 13. En parlant de ses actions contre les chrétiens, il dit en Actes 26, versets 10 et 11, « Quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. » Malgré les crimes qu'il avait commis contre le peuple de Dieu, Saul, maintenant connu sous le nom de Paul, dit en Actes 23, verset 1, « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Comment pouvait-il maltraiter les chrétiens et garder en même temps une bonne conscience? Ils croyaient sincèrement que les chrétiens étaient coupables de blasphème en disant que Jésus est le Fils de Dieu. Ils voulaient à tout prix les empêcher de convaincre d'autres personnes de déshonorer Dieu de la même manière. La passion meurtrière de Saul démontrait la vérité de la prophétie de Jésus en Jean 16, verset 2, où il dit à ses disciples: Même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Saul avait sur les mains le sang de nombreuses personnes innocentes, mais il croyait bien faire. Il obéissait à sa conscience. Son cas nous montre donc très clairement que l'on ne doit pas se fier à sa conscience seule. Il est vrai que l'on ne doit pas violer sa conscience ou faire ce que l'on croit être injuste. Mais ce n'est pas parce que notre conscience ne nous accuse pas que nous sommes dans le bon chemin. Pour être un guide fiable, la conscience doit être formée par une connaissance de la vérité. Le sentiment que j'ai raison ne prouve pas que j'ai raison. L'essentiel n'est pas de savoir si ma conscience m'accuse, mais de savoir si la parole de Dieu m'accuse. Sur la route de Damas, Saul de Tarse découvrit qu'il avait tort, que Jésus était ressuscité comme les chrétiens l'avaient dit. En persécutant les chrétiens, c'est contre le Messie de Dieu qu'il avait agi. La sincérité de Saul ne l'excusait pas. Il était coupable et accablé par la gravité de ses crimes. La sincérité est une qualité inestimable, mais elle n'excuse pas nos péchés et ne change pas le pécheur en innocent. Ayant maintenant et clairement compris son erreur, Saul demanda humblement ce qu'il devait faire. Comment pouvait-il effacer son péché et être sauvé? La réponse n'est pas donnée directement du ciel. Le Seigneur a chargé les chrétiens de la tâche de faire connaître aux pécheurs les conditions du salut. Jésus lui dit donc d'entrer dans la ville où on lui dirait ce qu'il devait faire. Certaines personnes de nos jours prétendent qu'ils ont vu Jésus en vision. Selon elles, le Seigneur les aurait pardonnés en ce moment-là, les déclarant sauvés, comme il faisait avec certaines personnes quand il était encore sur la terre. Mais avant de quitter la terre, Jésus a confié à ses disciples la mission de prêcher l'évangile à toute la création, y compris les conditions du salut. Après son ascension, la Bible ne parle d'un seul cas où Jésus pardonna quelqu'un vis-à-vis. S'il avait voulu faire ainsi, son apparition à Saul de Tarse aurait été une occasion parfaite. Mais Jésus n'a pas sauvé Saul sur la route de Damas. Comme nous l'avons vu, il lui dit d'entrer dans la ville où on lui dirait ce qu'il devait faire. La réaction de Saul quand il comprit qui lui parlait du ciel montre bien qu'il a cru en Jésus. Étant allé dans la ville pour attendre qu'on vienne lui dire ce qu'il devait faire, Saul priait, mais ne mangeait ni ne buvait. La prière et le jeûne démontraient son repentir. Saul regrettait profondément ses actions contre Dieu et il avait clairement l'intention de ne plus recommencer. Quand Ananias, l'envoyé du Seigneur, arriva finalement auprès de Saul, il a fait trois choses. Premièrement, il imposa les mains à Saul pour qu'il recouvre la vue. En effet, Saul avait été rendu aveugle quand Jésus lui était apparu sur la route. Il ne voyait toujours pas. Deuxièmement, Ananias informa Saul que Dieu l'avait destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car il devait lui servir de témoin auprès de tous les hommes. Notons que Saul ne fut pas prédestiné inconditionnellement à être sauvé. Aucun individu n'est prédestiné de cette manière à être sauvé ou perdu. Saul lui-même était conscient du fait qu'il aurait pu être perdu après avoir prêché aux autres s'il ne veillait pas sur lui-même. 1 Corinthiens 9, verset 27. Il fut choisi pour servir de témoin à la résurrection de Jésus, pour être apôtre. Troisièmement, Ananias dit à Saul de se faire baptiser pour qu'il soit sauvé. Malgré le choix divin dont Paul faisait l'objet, malgré sa nouvelle conviction concernant Jésus et sa repentance, Paul était encore dans ses péchés. Il avait encore à remplir une condition de salut établie par le Seigneur à l'égard de tout homme, le baptême. Le verset 16 est l'un des passages les plus clairs de la Bible concernant le but du baptême. On n'est pas baptisé pour montrer que l'on est déjà sauvé de ses péchés. C'est dans les eaux du baptême que l'homme croyant et pénitent est lavé de ses péchés, purifié par le sang de Jésus. Tant que l'on n'a pas obéi à l'ordre de se faire baptiser, on est toujours souillé et séparé de Dieu. En obéissant de cette manière, l'homme invoque le nom du Seigneur. Ce n'est pas en priant simplement « Seigneur, sauve-moi » que l'homme peut être sauvé de ses péchés. Quand on fait ce que Dieu dit de faire pour être pardonné, on invoque le Seigneur par l'obéissance à son ordre. En vue de la nécessité du baptême pour le pardon, Ananias demanda à Saul, « Pourquoi tardes-tu? Qu'est-ce que tu attends ?» Les uns attendent parce qu'ils pensent être sauvés sans le baptême. D'autres parce qu'ils n'osent pas s'opposer à un commandement des hommes qui exige que le baptême soit administré seulement par une personne désignée, prêtre ou pasteur, qui souvent n'est pas disponible. D'autres attendent un jour fixé, souvent la fête de Pâques, pour être baptisés ensemble avec d'autres personnes lors d'une grande cérémonie impressionnante. D'autres encore veulent d'abord vaincre toutes les tentations et être libres du péché avant de se faire baptiser. D'autres attendent que Dieu lui-même leur montre un signe personnel que le moment est venu pour qu'ils soient baptisés. Ces raisons ne sont pas bonnes et n'ont aucun fondement biblique. Quelle que soit la cause du retard, il y a un grand danger dans le fait de remettre au lendemain son obéissance. Du moment où l'on croit sincèrement en Jésus et qu'on est prêt à se détourner du péché malgré tous les sacrifices de la vie en Christ, on devrait obéir et être lavé de ses péchés. Pourquoi vouloir demeurer encore un jour souillé par le péché, séparé de Dieu et sans espérance de la vie éternelle? Acte 9, verset 18 dit que Saul se leva et fut baptisé. Si vous n'avez pas encore fait comme lui, nous vous exhortons de saisir la vie éternelle aujourd'hui.